Chapitre 70. Chasser une photo comme s'il s'agissait d'un suspect à appréhender à tout prix. Paul savait qu'en remontant à l'origine du fameux cliché, une facette de la vérité se dévoilerait. C'était comme s'il roulait dans un interminable tunnel depuis des heures et que petit à petit, il entrevoyait une lueur qui grandissait, grandissait, jusqu'à ce que la lumière du jour lui explose à la figure. Son téléphone sonna. C'était Martini. « J'ai eu un retour de notre téléphoniste concernant le portable de Wanda Gershwitz », annonça son adjudant sans introduction. « Elle s'appelait en réalité Rada Boykov, 35 ans. » Domicilié depuis 3 ans dans un immeuble du centre d'une petite ville collée à la frontière belge, côté français, à Luin. C'est à 20 bornes de Lille. Paul abordait le périphérique ouest de la capitale, déjà chargé, alors qu'il n'était même pas 16 heures. Il augmenta le son du haut-parleur Bluetooth. Papier visiblement en règle, pas de casier, rien de suspect dans les fichiers. On n'en sait pas beaucoup plus sur elle ni sur ses origines pour le moment. On est en train d'analyser les appels émis et reçus, mais un numéro a cherché à la joindre avec insistance ces derniers jours. Celui d'un certain Rémi Bartaud, le patron d'une brasserie d'Aluin. Je l'ai contacté. Rada Boykov travaillait pour lui comme serveuse depuis son installation dans le coin. Il s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles.
« Tu m'étonnes », répliqua Paul en freinant sèchement à cause d'un ralentissement.
« Bartaud m'a parlé de Moscato. » D'après lui, fin août, Gabriel a commencé à venir déjeuner régulièrement à la brasserie. Discussion, grand sourire, à plusieurs reprises, il l'a vu récupérer son employé en voiture après le service. C'est de là que c'est parti, eux deux.
Tout concordait avec la version de Gabriel. Boykov avait raccroché du milieu et était venu se perdre dans une ville frontalière où il l'avait retrouvé grâce au numéro de téléphone fourni par la veuve Chmielnik. Il l'avait observé, dragué, emmené dans son appartement de Lille. La suite, Paul la connaissait. De son côté, il informa l'adjudant que les procédures étaient lancées concernant la villa de Traskman. Un commandant de la police locale, informé du dossier, allait se charger des investigations. Puis il mit rapidement un terme à la conversation. Il devait se concentrer. Des voitures, des motos jaillissaient de partout, lui coupaient la route, klaxonnaient. Une demi-heure plus tard, les nerfs à vif, il prit la sortie Porte Dauphine, remonta l'avenue Bugeaud et la rue Copernic. Il tourna 5 minutes avant de se garer enfin dans le parking du parc Kléber Trocadéro. Quand il posa le pied en dehors de sa voiture, il respira avec soulagement. La dernière heure de route avait été éprouvante pour un ours qui quittait rarement ses montagnes. Le palais de Tokyo faisait penser à un imposant temple grec d'une blancheur éclatante, posé au milieu d'une large avenue bordée d'arbres et d'immeubles haussmanniens. L'aile est abritait le musée d'art moderne de la ville de Paris, et l'aile ouest, le centre d'art contemporain. Le gendarme contempla la tour Eiffel en arrière-plan. Il n'avait pas le souvenir d'être venu dans le coin depuis au moins 20 ans. La photographia et grimpa les marches qui se présentaient devant lui avec son allure de canard boiteux. Il s'était volontairement habillé en civil. Il paya même son billet d'entrée, uniquement pour l'exposition morgue. Il n'était qu'un visiteur parmi les autres, noyé dans la masse. Des fléchages le guidèrent à travers l'architecture déstructurée du palais. Le bâtiment était vivant et connu pour être façonné au jour le jour par les artistes qui dessinaient ou peignaient sur ses murs, défonçaient ses couloirs, creusaient son sol. Une œuvre d'art à lui tout seul, ivre de liberté et d'exubérance. Après avoir descendu un petit escalier, franchi 2 portes souterraines, dont l'une avec un gardien contrôlant la validité de son billet, il passa devant une salle de cinéma privée et s'engagea dans un couloir sombre, saturé d'illustrations en noir et blanc. Il croisa 2-3 personnes silencieuses, emmitouflées dans leurs blousons, puis fut propulsé dans la première salle. Là, tout avait été reproduit au détail près pour installer une ambiance inhabituelle, dérangeante. Le sol en linoléum blanc, le plafond bas et écrasant, les cases funéraires fermées, alignées en 3 rangées de 6, même la température avait été baissée artificiellement, il ne devait pas faire plus de 10 degrés. Paul dut admettre l'efficacité de l'effet immersif. Sur les murs, des encadrés détaillaient la biographie de l'artiste, ses influences, l'origine de Morgue. Des boutons permettaient de déclencher des audioguides offrant les mêmes informations. Paul appuya sur l'un d'eux et une voix grave et monotone d'homme envahit l'espace. En écoutant, il s'approcha des tiroirs, tira sur l'un d'eux au hasard et découvrit qu'il abritait une grande photo sous verre. Il reconnut celle de l'album d'Esquimet, avec la bouche écrasée sur la table métallique. Ici, elle portait une signature, AA, et un titre, Attaque cardiaque 2014. Il entreprit d'ouvrir les autres. Les clichés morbides jaillirent de leur tombeau. John Doe, chute mortelle, 2013. Sida, 2011. Mort par asphyxie, 2015. Brûlure, 2016. Lorsque les quatre roulettes sur rail firent glisser le deuxième tiroir et amenèrent le cliché sous ses yeux, sa gorge se noua. Mort inconnu, 2013. C'était le gros plan de la cuisse avec la tache de naissance en forme de tête de cheval. Il l'avait retrouvée. Andrea Abergel avait bien eu le cadavre de Mathilde Lourmel devant son objectif. Un feulement derrière lui. Un groupe de cinq sortait d'un sas à sa gauche. Les bouches pincées, aucun d'entre eux ne parlait. Ils observèrent Paul du coin de l'œil et s'en allèrent. La porte claqua dans leur dos, le silence retomba. Le gendarme ausculta les dernières cases funéraires avant de prendre la direction du sas. Il poussa un rideau en plastique transparent, une sorte de bâche de chantier, puis un second qui dévoila un espace plus glauque encore. Deux tables de dissection en carrelage blanc occupaient le milieu de la pièce éclairée par une grosse lampe hors d'âge. Les murs avaient été également carrelés, de fausses vitrines avec du matériel installé. Paul pensa à ces vieilles salles d'autopsie des années 1940, pire encore que celles de l'hôpital de Saga. Un homme et une femme, de dos, discutaient au sujet d'un des cadres accrochés autour d'eux. Paul serra les poings au fond de ses poches quand il découvrit le visage du type. Andrea Abergel. Il lui signifia d'un geste qu'il aimerait lui parler. L'artiste lui adressa un bref hochement de tête, leva un doigt, l'air de dire « deux minutes », et retourna à sa conversation. Une queue de cheval dépassant de sous une casquette noire dansait dans le dos de sa veste côtelée en daim couleur paille. Paul pensa à un hobbit ridicule, jailli du Seigneur des Anneaux. Il visita pour patienter. Les objets soigneusement exposés dans les vitrines ressemblaient davantage à des outils de forge qu'à des instruments chirurgicaux. Scie, sternal, marteau, pince. Au mur, les parties anatomiques, ventre recousu, face carbonisée, chair transpercée, se succédaient en une danse macabre. Lui avait l'habitude de la mort, mais il imagina aisément le choc des visiteurs face à ces incarnations glaçantes. Tous ces accidentés, ces brûlés, ces asphyxiés. L'une des photos avait été prise au ras de la table en acier. Depuis les orteils d'un cadavre, on voyait en arrière-plan, d'abord net puis flou, la longue suture irrégulière réalisée par le légiste, de la pointe du pubis jusqu'à la clavicule. Le gendarme se demanda quelle était la motivation des gens qui venaient admirer ces horreurs. Que cherchait-il dans la mort abjecte d'autrui? Pourquoi s'extasier devant des Maccabées? Paul bloqua sur un œil, gigantesque, à droite de l'entrée. Sous verre, l'œuvre carrée présentait des côtés d'au moins un mètre. Dans le grand soleil noir de la pupille dilatée, on distinguait clairement, par effet de réflexion, l'ellipse lumineuse de l'éclairage artificiel. La paupière semblait trop lourde, la couleur bleutée de l'arête du nez rappelait que la mort œuvrait, froide et implacable. Cette vision le perfora de bout en bout. Cela ne dura qu'une fraction de seconde, un instant insaisissable durant lequel il eut l'impression de croiser quelque chose de familier. Non pas un regard, mais plus une présence, au-delà de cet œil mort. Il s'approcha du cliché « empoisonné » 2017. Vu de près, l'œil rappelait un gigantesque puits de ténèbres. « Vous avez remarqué la lumière de la lampe cialytique ?» interrogea une voix dans son dos. « C'est une fenêtre. Elle représente la vie qui progressivement s'éteint pour laisser place à la mort. » C'est elle qui attire votre attention et vous unit à l'empoisonné, dans un moment à la fois dramatique et contemplatif. Paul se raidit. Pourquoi cette photo le perturbait-elle tant? Andrea Abergel l'observait en coin. Ses sourcils épars ressemblaient à une forêt défrichée. Ses lèvres charnues étaient-elles deux pneus superposés? Empoisonné à quoi? L'artiste parut surpris par la question. Il scruta avec une certaine insistance son interlocuteur, un regard brûlant, vif, dérangeant, et se décala un peu. Une autre prise de vue montrait des pieds de bébé potelés, dont l'un était entouré d'un ruban bleu. Méningite 2011. Abergel garda longuement le silence, paraissant en admiration devant sa propre création. « J'aurais pu l'appeler mort obscène. J'exhibe ici ce qui ne devrait pas être montré. La mort à l'œuvre sur le nourrisson. Qu'y a-t-il de plus injuste et cruel ? Ce cliché suscite toujours de violentes réactions, ce qui n'est pas pour me déplaire. Au XIXe siècle, on traitait les défunts comme des vivants, on les habillait, on leur donnait des postures, afin de les mettre dans l'album de famille. N'existe-t-il pas de nombreux portraits d'enfants en bas âge décédés dans les bras de leur mère ? Et ces hommes célèbres comme Hugo ou Proust, qu'on a photographiés sur leur lit de mort et exposés ? Empoisonnés à quoi ? Répéta Paul immobile. L'homme revint vers lui et le fixa sans ciller. Mon contact ne m'a pas fourni ce détail. Empoisonné, c'est tout. Paul acquiesça, puis se mit à marcher lentement. Abergel le suivit. Vous connaissiez l'origine de tous ces corps avant de les immortaliser?
Pas précisément. Dans mon métier, il est toujours nécessaire de connaître son sujet pour ne pas le trahir, mais quand vous êtes face à un cadavre, ce n'est pas la même chose. Le défi pour Morgue n'était pas de savoir quels hommes et quelles femmes ils avaient été, mais de faire passer la beauté de la forme, de retranscrire la personnalité du défunt avant la morbidité du contenu. L'émotion est là. Il a fallu beaucoup travailler les couleurs et les matières pour atteindre l'effet recherché.
Je peux vous montrer une photo particulière de l'autre côté? J'aimerais que vous me la commentiez.
Je suis là tous les après-midi pour ça.
Ils franchirent le sas. Paul fit coulisser le tiroir numéro 10 et apparaître la cuisse avec la tache de naissance. Abergel se positionna en face de son interlocuteur de l'autre côté de la planche métallique.
« Mort inconnue »,
déclama-t-il d'une voix presque religieuse.
« Celle-là remonte à quelques années. Que vous suggère-t-elle ? »
« C'est à vous que je pose la question. » L'artiste sembla faire abstraction du ton avec lequel Paul s'adressait à lui.
« Savez-vous qu'il existe environ 140 façons de mourir ? Certaines sont spectaculaires et faciles à identifier,
même pour le néophyte. Noyade, strangulation, pendaison, décès par arme à feu.
D'autres sont plus délicates à deviner et nécessitent l'expertise du spécialiste.
Infarctus, rupture d'anévrisme, embolie pulmonaire. De manière générale, le légiste parvient à mettre un nom sur la cause d'un décès, même dans les situations les plus complexes, surtout avec la puissance de la science d'aujourd'hui. Cependant, on dénombre encore ce qu'on appelle des autopsies blanches. À défaut d'une conclusion tranchée, le seul rapport qu'est capable de fournir le médecin légiste, c'est un diagnostic d'exclusion. La victime n'est pas morte de ceci ni de cela. Mais jamais personne n'accédera à la vérité. C'était le cas pour cette victime.
Il pointa la marque de naissance. J'aime beaucoup cette photo. Elle est une sorte de paradoxe, ou plutôt de compensation. Je me suis dit que si la mort était inconnue, la défunte ne devait pas l'être tout à fait. Ainsi, sans dévoiler son visage, je montre qui elle est grâce à cette tache si caractéristique sur la cuisse. L'image est paisible, contrairement à d'autres. Une mort inconnue est peut-être douce, sans douleur, pour celui ou celle qui y fait face. Je voulais retranscrire cette forme d'apaisement.
Paul n'écoutait qu'à moitié son baratin. Sortant son téléphone, il lui présenta un portrait de Mathilde récupéré sur Internet. C'était elle ? L'artiste le considéra avec attention plusieurs secondes et haussa les épaules.
Même si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire, pour des raisons évidentes de confidentialité. Mais en l'occurrence, je ne m'en souviens plus. C'était il y a 7 ans, et les morts peuvent ne pas ressembler aux vivants, tout dépend de leur état. Et puis, imaginez-vous, je suis allé à la rencontre de plusieurs centaines de cadavres sur plus de 5 ans. Cette exposition n'en reprend qu'une partie, mais vous trouverez une iconographie plus vaste dans le livre du même nom, Morgue, vendu à la librairie du Centre d'Art. Il devait lever le menton pour accrocher le regard de Paul. « Mais qui êtes-vous ? Un journaliste ?» Il était temps de monter d'un cran. Paul lui brandit sa carte sous le nez. « Capitaine de gendarmerie Paul Lacroix, je suis ici dans le cadre d'une enquête sur la disparition inquiétante de plusieurs personnes. La jeune fille que je vous ai montrée se prénomme Mathilde Lourmel. Elle a été kidnappée en 2011 à Orléans. Elle portait à la cuisse gauche exactement cette marque de naissance en forme de tête de cheval. » Le photographe détourna la tête lorsqu'un couple entra. Il fit signe à Paul de le suivre dans l'autre pièce, loin des oreilles curieuses. Il avait ôté sa casquette à présent et la tenait entre ses mains. « Vous êtes en train de me dire que c'est cette... qu'elle était là devant moi sur une table de dissection 2 ans après sa disparition ?»«
Tout à fait. » Il s'appuya au mur, le regard dans le vague. Paul remarqua à quel point ses doigts étaient courts et boudinés, de véritables saucisses cocktails.
« Remontrez-moi la photo. Je veux la voir de nouveau. »
Paul s'exécuta. Andrea Abergel scruta l'écran et sembla se perdre dans les méandres de sa mémoire.
« Mon contact avait sorti le corps d'un tiroir de morgue, puis on l'avait installé sur une table d'autopsie. Je me souviens que c'était une femme, oui. C'était sa jeunesse qui m'avait le plus frappé. Une fleur fauchée dans les champs. Il n'est pas impossible que ce soit elle. »
Paul sentait le feu brûler en lui. « Vous parliez d'autopsie blanche. La défunte était donc déjà passée sous le scalpel du légiste quand vous l'avez vue ?»«
Oui, elle présentait les cicatrices caractéristiques. »«
Ça signifie aussi qu'il y a forcément eu enquête judiciaire. Dans quelles circonstances a été découvert le cadavre, vous savez ?»«
Non, non. Je vous l'ai dit, le légiste n'allait pas jusqu'à me transmettre ces détails-là. Il faut imaginer le contexte. On se voyait 2 ou 3 fois par an. »
Il me faisait entrer de nuit dans la morgue, il risquait sa place, et moins il me communiquait d'éléments, mieux c'était pour lui. Il vérifiait tous mes clichés lors des prises de vue, pour s'assurer qu'aucun visage ne pouvait être identifié. Au cours de nos rencontres, il me donnait les causes de la mort, me touchait parfois 2-3 mots sur les victimes, rien de plus. Paul ne comprenait pas. S'il y avait eu enquête, il y avait nécessairement eu relevé d'ADN pour l'identification. Les résultats auraient dû concorder avec ceux de Mathilde Lourmel présent dans le FNAEG. De quoi était-il question ? D'un corps autopsié enfermé dans un tiroir de morgue et non référencé ? D'un trafic de cadavres ? Une sinistre idée lui traversa l'esprit et à ce moment, une suée intense l'envahit. Comme prisonnier d'une espèce de ralenti cinématographique, il se tourna vers l'œil géant, ce grand puits d'encre qu'il aspirait, cet iris réduit à un cercle fin, pareil à celui qu'on peut apercevoir lors d'une éclipse totale de soleil. Alors il sut ce qu'il avait autant ébranlé lors de son premier face-à-face avec cette œuvre. La main qui tenait le téléphone commença à trembler. Il afficha avec peine une photo.
« Et elle, vous l'avez vue aussi ?»
Cette fois, Andrea Abergel ne marqua pas la moindre hésitation.
« Oui, je l'ai vue. Dans les mêmes circonstances, malheureusement. » L'empoisonné que j'ai immortalisé en 2017, c'était cette femme-là. Il me semble qu'elle était plus âgée que sur votre cliché, mais c'était bien elle, j'en suis certain. »
Paul eut l'impression qu'une vague impitoyable venait de l'engloutir, le malmenait dans ses remous, le privait d'oxygène. Il apprenait comme ça, abruptement, dans une salle sinistre d'un centre d'art contemporain et de la bouche d'un inconnu, que l'empoisonné, c'était Julie. Julie était morte. Les plastiques du sas bruissèrent, le couple poursuivait sa visite. Paul se précipita vers eux, sa carte de gendarmerie brandie. Il avait les jambes en coton et l'espace d'une seconde, il se demanda s'il n'allait pas chuter. « Fichez le camp !» Sans un mot, dérouté, les visiteurs firent demi-tour. Paul revint vers Abergel. Il essayait de ne pas craquer. Tant qu'il roulait dans la vague, tant que ses bouillons l'emportaient et le cognaient dans tous les sens, il ne s'effondrerait pas.
Mais il fallait faire vite parce que la marée allait se retirer et le laisser échouer sur la plage. Là seulement, il chialerait toutes les larmes de son corps. Le photographe s'était décalé vers l'œil géant et l'observait comme s'il découvrait son propre travail pour la première fois. Deux rides verticales creusaient ses joues telles les branchies d'un requin. « Ne me dites pas qu'elle a disparu, elle aussi.
Il me faut l'identité de ce légiste. »
Andrea Abergel se prit la tête entre les mains.
« Je suppose que je n'ai pas le choix. »«
C'est ça où je vous embarque, illico. Dans tous les cas, on remontera à lui. Alors s'il vous plaît, faites-moi gagner du temps. »
L'artiste serrait les mâchoires. Il fixa la pupille quelques secondes, poussa un soupir et se plaça face au gendarme.
« Ce légiste, c'est une femme. Elle exerce à l'Institut médico-légal de Lyon et elle s'appelle Coralie Fritsch. »